Pour les 150 ans de l'école pratique des hautes études, le philosophe Giorgio Agamben était l'invité d'honneur. Vincent Delcroix, directeur d'études dans la prestigieuse institution, dresse son portrait intellectuel dans les pages débat de l'Obs. Son horizon est politique, dit-il, c'est celui d'une forme de vie au-delà du droit, soustraite à la puissance de l'État, regardant vers une communauté à venir, libérée de la puissance juridique et favorisée par une restitution de l'individu à lui-même. L'entreprise, qui passe par une archéologie mobilisant les moyens de la philologie, de la théologie, de l'histoire du droit, notamment romain, explore les seuils et les tournants essentiels de la culture dans le but de désamorcer et de neutraliser en les dévoilant, les catégories par lesquelles le sujet dominé a été construit. Déconstruire l'image de ce sujet souverain, moderne et libéral, tout entier engagé dans l'action, mais livré au pouvoir et totalement contrôlé, le libérer par une philosophie du désœuvrement, telle est l'ambition constante d'Agamben, résume Vincent Delcroix, qui insiste sur cette forme de résistance passive qui contaminerait l'exercice même de la force, qui destituerait la puissance. Le philosophe désigne d'ailleurs parfois ainsi sa pensée, une théorie de la puissance destituante, cherchant les lieux et les époques, les figures où s'invertit cette logique occidentale de la puissance, figure de l'enfant ou de l'amant, du scribe qui n'écrit pas, de l'ange. On peut rappeler à ce sujet son beau livre sur l'aventure, publié chez Rivage, dont l'aventure don d'une liberté initiale dont tout un chacun, pour tout un chacun, donc qui finit par former un destin. Avec, pour les anciens grecs, quatre divinités tutélaires. Daimon, la complexion propre, le génie de chacun. Tuké, la fortune. Eros, l'amour. Et Ananke, la nécessité. Goethe ajoutera Elpis, l'espérance. Agamben relie à cette lumière la notion d'aventure dans les romans de chevalerie et la poésie courtoise, où le terme désigne l'objet de la quête du chevalier, l'épreuve au terme de laquelle celui-ci se découvre lui-même. L'aventure est étant pour lui autant rencontre avec le monde que rencontre avec lui-même. C'est ce qu'on peut appeler un événement dont Gilles Deleuze dira dans Logique du sens, l'événement n'est pas ce qui arrive, accident, il est dans ce qui arrive le pur exprimé qui nous fait signe et nous attend. Ainsi seulement, ajoute Agamben, l'événement qui en soi ne dépend pas de nous devient une aventure, devient nôtre. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, écrivait René Char. Cette version renouvelée de l'amor fati nietzschéen prend toute sa mesure grâce à Elpis, l'espérance, comme Goethe l'avait bien vu. Conclusion d'Agamben, l'amour espère parce qu'il imagine et imagine parce qu'il espère. Les dieux sont morts à l'avènement de la philosophie, explique Jean-Luc Nancy dans l'entretien accordé à Nicolas Dutens pour l'Humanité. Au sujet de son dernier livre, S'existence, publié chez Galilée. Mais Platon ne cesse de se référer au dernier d'entre eux, Eros, qui porte la puissance divine, cosmique, tellurique, chtonienne, dionysiaque et apollinienne, nécessaire pour faire un nouveau monde. Même si alors le savoir comme objet de désir éclipse la beauté qui était l'objet érotique, l'énergie qu'il sous-tend ne cesse de faire retour dans la pensée jusqu'à Freud, qui souligne le philosophe, n'a pas inventé le sexe et n'a pas non plus tout ramené à lui, comme on l'a dit parfois. C'est le sexe qui a produit Freud, c'est un certain état de toute la culture occidentale qui a rendu nécessaire qu'une pensée s'empare de ce qu'on réussissait avant à laisser dans le non-pensé de la génération ou de la jouissance. De Freud à Lacan, c'est la notion de pulsion qui va le définir. Une intensité unique, car y a-t-il une intensité végétale, animale et humaine qui ne soit pas sexuelle et au même temps inobjectivable en soi comme poussée, si ce n'est sa propre reproduction ou bien sa propre répétition. Une sorte de folie élémentaire que s'emploie souvent en vain à cadrer les rapports sociaux ou les systèmes de parenté. Certaines sociétés ont résolu la question autrement. Le mensuel Books évoque le cas des Mozo, une minorité montagnarde du sud-ouest de la Chine où règne une grande liberté sexuelle. Les femmes comme les les hommes étant libres de choisir leur partenaire sans pour autant contracter les liens du mariage. Dans cette société matrilinéaire, les enfants sont élevés dans la famille élargie et les biens sont transmis par les femmes. Les amants se baladent au gré du désir et des portes ouvertes. Un modèle qui n'a pas tardé à attirer l'attention de l'industrie touristique chinoise qui a aménagé les moyens logistiques pour envahir cette enclave en faisant la promotion des habits pittoresques, des danses, des mozos et de leur conception originale de la sexualité. Résultat, on ouvrit des bordels où travaillaient des femmes en costume mozo, les mozos abandonnèrent l'agriculture pour ouvrir des chambres d'hôtes et certains vendirent leurs terres à des promoteurs désireux de construire de nouveaux hôtels. Le dispositif du spectacle s'était refermé sur ce peuple libre, mettant fin à son existence singulière.